Florence Federle, le crime de la rancœur. Une semaine après la disparition d'Yves, le 5 mars 2004, Florence Federle se rend une seconde fois à la gendarmerie de Milly-la-Forêt. Si la mère d'Yves n'avait pas insisté lourdement pour qu'elle fasse effectuer par les forces de l'ordre une recherche dans l'intérêt des familles, aucune procédure n'aurait été lancée. Florence répète son histoire, en ajoutant qu'Yves est parti avec son téléphone portable et sa carte bancaire. Florence parle de l'amour des voyages de son compagnon. Elle est persuadée qu'Yves aurait pu partir quelque part à l'étranger, pour une aventure ou même pour toujours. Elle insiste beaucoup sur le caractère voyageur d'Yves et donne de nouvelles destinations possibles au fil des jours. Cela peut paraître anodin, mais cela marque le début des suspicions. Une petite équipe de la gendarmerie de Milly est chargée de réaliser une enquête de mœurs sur le couple. Parallèlement, la piste d'un départ précipité pour le Sénégal est explorée. Le relevé téléphonique d'Yves révèle des appels provenant de ce pays d'Afrique. Pourtant, son nom n'apparaît sur aucun registre d'embarquement aérien ou portuaire. Les gendarmes finissent par reconstituer la vie de ce couple étonnant au fil de leurs auditions. Florence Federle rencontre Yves Bourgade au début des années 90. À eux deux, ils forment l'union parfaite entre deux familles bourgeoises. Monsieur Federle, le père de Florence, est un célèbre peintre de Barbizon. Son art l'a rendu riche. Yves bénéficie de la fortune d'une famille de longue lignée à Melun. Florence est attirée par le côté charmeur d'Yves Bourgade. Il s'installe rapidement dans un grand pavillon à Montlignon, une petite commune assez aisée. Là-bas, le couple mène une vie confortable pendant plusieurs années. Tous les dimanches, ils reçoivent des amis. Florence reçoit les proches d'Yves et sa belle famille en parfaite femme de maison. Les réunions de famille sont organisées de sa propre initiative. Pour les proches, Florence et Yves constituent un couple aussi idéal que hors norme. Les deux trentenaires paraissent comme d'éternels adolescents, les responsabilités familiales en plus. Ils ont deux enfants, mais ne sont pas encore mariés. Pour l'époque et pour leur statut social, c'est une situation inhabituelle. Pour Florence, la situation ne peut plus durer. Elle rêve d'un grand mariage, Yves veut préserver autant que possible son statut de célibataire. Mais elle insiste, son compagnon cède, les voilà mariés en 1997. Ce qui n'empêche pas Yves de se comporter comme un éternel célibataire le week-end. Dans la famille, on s'est toujours demandé quand allait arriver ce moment où la situation deviendrait explosive. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Pour l'heure, tout le monde se garde encore de suspecter Florence d'une quelconque implication dans sa disparition. Il n'en demeure pas moins que son attitude est aussi déplaisante que suspecte. La famille d'Yves a décidé de mener sa propre enquête. Edith se met en relation avec une association d'aide aux familles victimes de disparition le 13 mars 2004. On lui conseille de rédiger une annonce d'avis de recherche qui pourra être ensuite massivement diffusée sur Internet. Une initiative louable, mais que Florence n'apprécie pas. Lorsqu'elle l'apprend, elle est furieuse. Sans aucune raison, elle critique les aspects techniques de l'annonce, dit qu'elle est mal faite et que la photo est mal choisie. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est qu'on ne lui ait pas demandé son autorisation. Aurait-elle quelque chose à cacher? On ne peut pas l'affirmer. Mais pourquoi tient-elle à refaire sa vie si rapidement? Le 23 mars 2004, la gendarmerie de Milly ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Alors qu'à 70 km de là, à la police judiciaire de Versailles, le tronc calciné qui a été retrouvé n'est toujours pas identifié. Dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs se rendent au domicile du couple. Ils y trouvent une Florence Federle, très surprise par cette visite, voire dérangée. Elle était en train de faire des tris dans les papiers de son mari en vue de la préparation d'un départ. Dans son esprit de femme bafouée, Yves ne reviendra pas. Pour son intérêt et celui de ses enfants, elle aspire à une nouvelle vie. Ce qui implique la vente de la maison, des biens d'Yves et un déménagement pour une autre région. Les gendarmes découvrent qu'elle a déjà commencé à liquider une partie des biens de son mari. Yves est collectionneur de véhicules militaires, Florence s'est débarrassée de ses deux jeeps, d'une camionnette et d'une partie de ses outils professionnels. Florence dit vouloir préserver la vie de ses enfants, et qu'elle a besoin d'argent pour leur éducation. Qu'adviendra-t-il si Yves décide de ne jamais lui envoyer de l'argent? Un dernier enfant est né après leur mariage, il est encore jeune. Florence est terrorisée à l'idée de se retrouver sans apport financier ni soutien d'aucune sorte. Elle en a déjà fait l'expérience par le passé. En 2000, le couple traverse une crise financière qui l'oblige à vendre le pavillon de Montlignon pour une maison plus modeste à Moigny-sur-École. Florence entreprend même de liquider l'entreprise de son mari quelques jours après le passage des gendarmes. D'ailleurs, elle ne semble pas la seule à vouloir liquider les affaires de Yves, d'après ce qu'elle raconte. En effet, le 19 avril 2004, les gendarmes de Milly-la-Forêt sont à nouveau mobilisés au domicile des Bourgades. Florence les a contactés pour signaler un cambriolage. Ils trouvent une maison sans dessus-dessous. Tout le mobilier a été fouillé, mais les cambrioleurs ne sont pas partis avec de l'argent. C'est étrange, dans la maison, il y a encore quelques liquidités et des bijoux. En revanche, ils se sont intéressés aux jouets des enfants, quelques outils et des poids d'une horloge comtoise dont la valeur ne dépasse pas la centaine d'euros. Les gendarmes trouvent la situation bien étrange. Malgré cela, ils font leur travail. Pendant que l'un prend la déposition, l'autre inspecte les pièces de la maison. Très vite, l'attention est portée sur un détail dans la chambre du couple. Des morceaux de moquette sont superposés. Sur le premier morceau, il y a une importante tache d'eau de Javel. Le gendarme qui a fait cette découverte en appelle à son instinct. Pour lui, on cherche à cacher quelque chose. Pendant ce temps, la découverte du tronc humain calciné aux abords de la forêt de Chanqueuil a fini par susciter des correspondances. Un gendarme établit un lien entre la mystérieuse disparition d'Yves Bourgade et ce cadavre trouvé. Il commence même à penser à un lien encore plus étroit avec Florence Federlé, qui devient suspecte principale dans cette disparition. Durant la courte enquête menée à son domicile sur ce prétendu cambriolage, la mère de famille a fait écouter au policier un message que son mari aurait laissé sur son répondeur. La voix est presque inaudible. Seulement trois mots sont prononcés. « Bonsoir ma chérie ». Florence semblait insister sur le fait que son mari était en vie. Très vite, les enquêteurs de Milly-la-Forêt sauront que ce n'est pas le cas. On prélève sur Edith Delacour, la sœur du disparu, un peu d'ADN pour réaliser une comparaison avec celui présent sur le cadavre. Dans cette affaire, plus de mystère, le tronc calciné est bien celui d'Yves Bourgade. Avant le résultat des analyses qui tombent environ un mois plus tard, Florence Federlé a continué à jouer avec les nerfs des gendarmes. Elle les a contactés une seconde fois pour un second cambriolage. Elle tient à ce que tout le monde la pense victime d'ennemis que l'entrepreneur aurait pu se faire. Les amis et les collaborateurs de celui-ci affirment pourtant qu'ils n'avaient jamais eu de problème avec personne. Lors de cette seconde visite des gendarmes, Florence apparaît plus stressée que d'habitude. D'autres importantes taches de Javel sont constatées sur d'autres morceaux de moquette. Si Yves Bourgade a été massacré, de la Javel sur de la moquette aurait pu servir à dissimuler des traces de sang. Avec au centre de cette équation Florence Federlé. Cette accumulation de faits concomitants déclenche une enquête discrète sur l'épouse. Elle est placée sur écoute. Au téléphone, elle ne prononce jamais le nom de son défunt mari et semble définitivement résolue à refaire sa vie dans le Berry, au centre de la France. En mère prévoyante, elle avait informé les instituteurs de ses enfants pour que ceux-ci lui fournissent le travail qu'ils ont fait au cours de leur année scolaire et qu'ils puissent être transférés dans la nouvelle école. Tout semble très clair dans sa tête. L'argent des ventes des biens de Yves pourra l'aider à disparaître et refaire sa vie. Mais avant cela, cet argent sert aussi à faire disparaître les preuves de sa possible culpabilité. Les enquêteurs sont sur le qui-vive. Ils finissent par apprendre l'intention de Florence d'engager une entreprise pour réaliser des travaux dans la maison, jeter des vieilleries, dont la fameuse moquette suspecte. Le 1er juin 2004, les hommes de la police judiciaire de Versailles se mettent en route pour Moigny-sur-École. Ils sont chargés de placer Florence Federlé en garde à vue. Les enfants sont également pris en charge par les services de gendarmerie, en vue d'être interrogés de leur côté. Les enquêteurs espèrent qu'ils pourront donner de précieux détails sur l'emploi du temps de leur mère ou de leur père. Mais au moment de la disparition de Yves, les enfants n'étaient pas à la maison. Florence s'était arrangée pour les envoyer dans sa famille pendant deux jours, entre le 25 et le 27 février. L'un des enfants se souvient que le matin du 25 février, le couple s'était disputé.